Je l'ai pas à 100%. Vous savez qu'il y a du monde qui me dit que leur perruche crie. Bon, j'ai une palette de talents. On le sait, quand même assez spectaculaire, mais on pourrait aussi m'appeler l'homme qui parlait aux perruches. C'est pas de quoi qui me mettrait mal à l'aise. Bienvenue à Angle Mort. Aujourd'hui, je vous parle... Alors, la question, c'est est-ce qu'on doit débattre avec les gens qui sont considérés infréquentables? Qui comporte une autre question. Qu'est-ce qu'un infréquentable? C'est que ça nous amène à Donald Trump, ça nous amène à plein de monde qui sont considérés à tort ou à raison. Mais je veux surtout aujourd'hui vous parler d'un phénomène médiatique en France qui s'appelle Éric Zemmour, dont moi, je suis un grand fan. Je suis un grand, grand fan d'Éric Zemmour. Je l'écoute sur une base quotidienne. Puis pas parce que j'adhère à ses idées, parce que je trouve... J'adhère à plusieurs de ses idées, pas parce que j'adhère pas à ses idées. Mais moi, je vous ai déjà dit, hein, je suis très, très, très à droite dans mes intérêts quand j'écoute TV. J'écoute pas d'audio. Donc, quand j'écoute vidéo, très à droite. Puis je suis très à gauche quand je lis le journal. Ça s'explique un peu difficilement. Mais donc, je suis abonné payant au Monde, qui est à gauche toute. En France, c'est d'abord le Libération, qui est vraiment à gauche, quasiment caricatural. Puis après ça, ça tombe avec le Monde. Le Monde, là, c'est centre-gauche, mais c'est ça. Alors, Libération, c'est vraiment à gauche toute. Puis t'as Mediapart qui est à gauche, à gauche, à gauche, tu sais. Non, je te parle dans les médias qui tirent beaucoup d'abonnés, là. Puis aux États-Unis, c'est Washington Post puis New York Times qui sont très à gauche aussi. Puis je suis abonné au New York Times. Puis ici, mon journal préféré, je l'ai déjà dit, ça commence avec Le Devoir et C'est quoi avec la presse. Mais je lis tout. Ça fait que, moralité, je suis dur à suivre parce que j'ai des intérêts... de suivre des individus, si tu veux, très à droite, mais des médias très à gauche. Tiens, voilà, je le résume beaucoup mieux de même. C'est qu'Éric Zemmour, je le décris souvent comme un Donald Trump, mais qui sait lire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de très cultivé, qui écrit beaucoup de livres, qui s'intéresse à la France, à son histoire, puis qui suscite de nombreux débats, parce que pour lui, à quelque part, la plupart des déboires de la France... Puis il élargit pas ça tant que ça ailleurs. Il se contente de la France. C'est à cause de l'immigration, notamment l'immigration maghrébine, puis nord-africaine, donc Algérie, Maroc, Tunisie, Turquie, Libye, puis l'Afrique, là, en général, qui sont effectivement la grande majorité des migrants qui essaient de rentrer en Europe, etc. Et ça fait, mine de rien, ça fait pas loin de 30 ou 40 ans qu'on se fait dire que la priorité... Ça fait 30 ou 40 ans qu'il y a un système d'établi, une influence de la part notamment des journalistes, des artistes, qui ont toujours été très à gauche, puis qui le sont encore, mais quand tu regardes ça avec un peu de recul, tu réalises que toute la mouvance diversitaire, féministe, etc., ça s'est rentré dans l'espace public comme étant des évidences. Or, c'est une façon de voir la société à travers d'autres, puis ça comporte des combats, mais des combats, il y en a d'autres. Il y a des combats pour faire en sorte qu'il y ait moins de pauvreté, il y a des combats pour toutes sortes d'affaires dans la vie, mais les combats qui, tout à coup, ont pris, si tu veux, ont pris le dessus dans la mouvance médiatique occidentale, c'est c'est des mouvances qui étaient particulièrement à gauche et pour lesquelles, tout à coup, il y a eu des Donald Trump, il y a eu des Jean-Marie Le Pen en France, maintenant avec sa fille Marine Le Pen pour le Rassemblement national, et qui, au début, sont reçus comme étant des un peu comme Maxime Bernier ici, mettons. Des partis de moindre importance qui rallient très peu de monde, mais avec le temps, ça rallie beaucoup de monde. Marine Le Pen était au deuxième tour en France, puis les sondages la mettent encore au deuxième tour contre Emmanuel Macron. Ça fait que c'est vraiment la gauche contre la droite, qu'on le veuille ou non, même si, bon, Macron s'est présenté. Mais je ne veux pas rentrer dans le détail. Je veux juste vous parler à quel point c'est médiatiquement intéressant. C'est, allez sur YouTube, faites Éric Zemmour, puis vous allez voir tout ce qui se passe là, parce que... Alors, je vous conte l'histoire rapidement. Éric Zemmour, il existe depuis 30 ans dans les médias. C'était d'abord un chroniqueur politique qui a commencé à écrire des livres. Il y en a un, entre autres, qui s'appelle... c'est pas le deuxième sexe. Ça, c'est le livre de Simone de Beauvoir. Ça s'appelle... En tout cas, j'oublie le nom. Puis c'est une critique du féminisme, mais qui date de quand même quelques décennies. T'sais. Puis là, après, ben, il s'est un peu plus radicalisé, mais pas dans le sens négatif, genre faire des attentats, mais il est devenu... Sa pensée s'est articulée beaucoup autour de l'islam, comme quoi ça se fond pas dans la République, puis qu'il répète souvent que Hegel disait... Hegel, qui était un chum de Karl Marx, disait... À un certain moment, la quantité devient une qualité, ce qui est très vrai. Donc, en un mot, c'est que si dans ton quartier, il y a 7 musulmans, 8 chinois, ben c'est pas grave. Mais s'il y a 7000 musulmans et 8000 chinois, ben ça change le quartier. Jusque-là, c'est banal. C'est banal, mais quand tu commences à parler de même, quand tu commences à mettre de la statistique, etc., déjà, tu passes un peu pour un douteux, pour quelqu'un qui met le focus à mauvaise place. Puis ça fait en sorte que le dernier livre de Éric Zemmour s'appelle « La France n'a pas dit son dernier mot ». Ça a sorti récemment, tout récemment. C'est des records sur Amazon France de précommande que Amazon France n'a jamais vu. Et là, lui, il n'a pas annoncé qu'il se présentait pour la présidentielle. Mais tout le monde s'attend à ce qu'il fasse. Puis il tient ça, là, il tient ça complètement en suspense. Et alors, il a prévu dans des grandes salles, jusqu'à 3000 places à Paris dans 2 semaines, fait une tournée de la France pour soi-disant son livre. Mais finalement, c'est des meetings politiques, tu sais. Mais effectivement, il n'a pas dit qu'il se présentait, puis tout. Puis là, pendant ce temps-là, ce qui est très, très intéressant, c'est que les sondeurs le rentrent systématiquement dans les sondages. C'est-à-dire qu'ils vont dire, pour qui vous voteriez? Si tu es Emmanuel Macron, si tu es Marine Le Pen, si tu es Xavier Bertrand, si tu es Valérie Pécresse... C'est-tu Jean-Luc Mélenchon? C'est-tu Éric Zemmour? Il ne s'est même pas présenté officiellement. Mais il cause tellement de bruit qu'il est dans cet intérêt-là, si tu veux. Et là, Jean-Luc Mélenchon, qui représente la France insoumise, qui est un peu la figure de proue de la gauche française, qui, avec le défunt Parti socialiste, avec les écologistes, bon, qui sont tous dans des camps qui se rapprochent, mais quand même séparés, a accepté de débattre jeudi à 20h45 sur BFM TV, qui est accessible live sur Internet. Moi, dans mon Apple TV, j'ai l'application BFM TV. Et puis, moi, je vais l'écouter, parce que, comme je vous dis, j'écoute tout le temps du Zemmour. Je trouve ça super intéressant, ce qu'il suscite puis ce qu'il dit. C'est vraiment... Et pourquoi c'est si intéressant? Bien, il y a plusieurs points. Le premier, c'est que tu vois à quel point il suscite la rage des gens de la gauche... Qu'on affuble souvent de bien-pensance, mais je trouve ça à la rigueur quasiment... C'est comme un terme rabaissant que moi, j'aime pas. Je pense pas que c'est... Il y en a, là, de la bien-pensance. C'est pas un défaut, là, d'être bien-pensant. Là. C'est un peu bizarre que ça soit devenu. Mais c'est une rage, c'est une hargne. Tu vois qu'ils sont... C'est comme si... C'est un discours qui n'a pas le droit d'avoir lieu. Là. Or, c'est tout le temps appuyé, lui, sur des affaires très intéressantes. L'histoire en mouvement... c'est quelqu'un qui connaît beaucoup l'histoire de la France, qui en soi n'est pas une seule histoire. Évidemment, tu peux voir l'histoire de toutes selon des paramètres, selon des choses qui sont oubliées. Nous autres, ici, vois-tu, il y a tout ce qui s'appelle les Autochtones, où on réalise que, bon, ils ont été mis vraiment de côté comme de façon anecdotique. Puis, tu sais, à partir du moment où il y a un gros clash, il y a toujours plein d'affaires intéressantes qui sortent de là. C'est ça que je veux vous dire. Puis quand tu regardes la réaction d'Éric Zemmour, ça me fait penser dans un registre totalement contraire. Ça m'avait frappé, ça. Quand Gabriel Nadeau-Dubois a été élu, quelque part dans le coin d'Hochelaga, là, maison pour aux dernières élections provinciales, écoute, le lendemain, dans le Journal de Montréal, là, tous les chroniqueurs étaient époumonés. Ils étaient hors d'eux-mêmes, toutes sans exception. Joseph Facal, Mathieu Boccoté, Richard Martineau. C'était tout, c'était épouvantable, c'était épouvantable. Puis c'est là que tu voyais la grande phrase de Jean-Paul Sartre. On juge la force d'une idée à l'opposition qu'elle suscite. Puis c'est vrai même en business. Nous autres, dans mon classeur, quand on disait « Hey, on va faire tel ajustement puis on va déclencher des nouvelles ventes », quand ça chiolait pas, là, ben il n'y en avait pas de nouvelles ventes. Puis quand tout coup, on avait dit « À partir de maintenant, pour pouvoir savoir qui a visité votre fiche, il faut que vous payiez étape-barouette. » Ben sais-tu quoi? Il y a eu plein de ventes. D'où ma fameuse phrase qui résume la business Internet, c'est « judicieusement frustrer ton client ». Puis c'est ça. Ça fait que, oui, vous avez remarqué que je m'auto-fameuse phrase. Ça fait que, bref, ça fait que Zemmour, écoute, depuis que Jean-Luc Mélenchon a dit, là, c'est vraiment, il y a la moitié de la gauche qui dit, à vrai dire, tout ce qui n'est pas son propre parti dit, c'est terrible, c'est légitimer l'extrême droite, puis blablabla. Puis là, t'as son propre parti qui dit, ah oui, mais pendant ce temps-là, lui, tout le monde l'invite, comme des déchaînés, il fait tous les plateaux. Moi, chaque fois que j'ouvre mon YouTube le matin quand je me lève pour faire mes lectures, j'ouvre YouTube, là, il y a tout de suite une émission qui a eu lieu. Parce qu'eux autres, ils ont 6 heures de plus sur nous autres. Donc, en matinée ou dans nuit ou peu importe, là, il y a tout le temps des émissions qui soit parlaient d'Éric Zemmour, soit recevaient Éric Zemmour. Tout le temps. Fait que Mélenchon, lui, ce qu'il dit, c'est ou bien je le laisse piailler puis il n'y a pas de contradicteur, ou bien il va être obligé de me passer dessus parce que je m'oppose à toute sa vision de la France. Et aussi, on va le faire sortir de ses thèmes. Parce que là, ce qui arrive avec Zemmour, c'est que c'est lui qui impose les thèmes. C'est-à-dire qu'il arrive avec des thèmes très sulfureux, immigration, islam, etc. Puis ça oblige les autres à répondre parce que ça résonne chez beaucoup de monde. Et ça résonne chez beaucoup de monde parce qu'il est rendu, il a commencé à 3 % dans les sondages, il est rendu à 11 %. Puis là, je vous parle, c'est quelques semaines, d'un gars qui dit même pas qu'il est encore candidat officiel. Ça fait que ça résonne beaucoup dans la France des Gilets jaunes, la France qu'on voit pas à TV, la France... Monsieur, Madame, tout le monde, la France blanche, la France chrétienne, qu'on dirait tout le temps qu'il est délité, tu sais, qu'il existe comme pu. Mais Paris puis la France, ça peut être deux affaires, tu sais. Ça fait que, moi, je trouve que, puis ce qui est le fun d'Éric Zemmour, c'est que justement, il est zéro anti-masque, anti-vaccin, tu sais, tout le côté pas de classe toxique de Donald Trump. Tu retrouves l'inverse chez Éric Zemmour, mais avec un discours extrêmement sulfureux, notamment sur l'immigration, à peu près exclusivement, sur le reste, c'est politique de défense. Ils disent qu'il faut ramener le nucléaire, que le nucléaire français, c'est une expertise française qui s'est délitée, puis que c'est très bizarre que les écologistes ne veulent pas ramener le nucléaire alors que c'est la forme d'énergie qui dégage le moins de CO2. C'est très vrai, à part peut-être nous autres, les loqués qui ont Hydro-Québec. Ça fait que donc, vraiment, là, où le bas blesse, là, c'est immigration, puis est-ce que, si je résume, là, est-ce que l'islam est soluble dans la République française, dans la mesure où tout à coup son ombre fait en sorte que des quartiers sont devenus des quartiers, selon lui, qui sont trop islamisés, etc. Alors, moi, je trouve pas que c'est un problème de poser des questions qui partent du réel. Il résume très bien sa façon de faire en disant « Moi, je suis pas dans l'utopie ou dans le « ça serait le fun ». Il a nommé à un moment donné Clemenceau, qui était un ancien président de la France, puis qui avait dit « On sait que Jaurès, qui était son grand adversaire socialiste, lui était, je sais pas c'était quoi son parti à l'époque, ça n'existe plus, mais c'était de droite. » Puis il disait « On sait que c'est Jaurès qui parle quand tous les verbes sont au futur. Tu sais, il faudra, nous pourrons. » Je trouve ça génial. Ça fait que... Et Zemmour, il dit « Moi, je pars du réel, puis je pars de l'histoire. » C'est juste ça que je regarde. C'est quoi le réel? C'est quoi le terrain? Puis il a raison que souvent la gauche va vouloir cacher une partie du réel parce que ça détruit son idée de ce que devrait être la France. C'est totalement vrai. N'en déplace aux gens de gauche. Ça invalide pas cette façon de penser-là. Pas du tout. T'as le droit d'avoir dans les souhaits. T'as le droit de dire « Moi, je pense qu'on serait tous plus heureux si X, Y, Z, c'est légitime. » Mais évidemment, à un moment donné, il arrive un clash. Il y a des sujets sur lesquels on ne s'entend plus. Puis c'est très intéressant de voir cette espèce de cancel culture-là, où est-ce qu'on dit « Cette personne-là, je préférais qu'on ne la voie pas. Je préfère qu'on ne l'entende pas. » Puis tu ne sens pas ça de l'autre bord. Sandrine Rousseau, par exemple, qui est en... Il y a des primaires en France, ça n'existe pas ici, mais c'est comme un concours public où les membres d'un parti vont voter à savoir si c'est lui ou lui. qui va nous représenter pour les élections. Ça fait que là, il y avait eu 5 candidats pour les écologistes. Là, maintenant, ils sont 2. Puis Sandrine Rousseau, tu sais, je veux dire, c'est du gros féministe, là. Ding-dang-dang. Puis, à vrai dire, si tu te rends là, tu fais comme... on dirait que son écologie... il y a pas ça de parti vert. Europe Écologie Les Verts, là. Mais elle parle de vert quand ça la donne. Tu sais, c'est vraiment toute la palette, là, de la nouvelle gauche, que moi, j'appelle la gauche des sensibilités, tu sais. Ça fait que Zemmour, il rentre là-dedans, appuyé par un énorme appui populaire, avec un raffinement qui fait en sorte que s'il y avait eu un Zemmour aux États-Unis, d'après moi, Trump aurait gagné grave, parce que son côté pas de classe, son côté tout croche, a repoussé des gens qui, sinon, auraient dit, moi, Trump, je trouve ça très bon qu'il se mette en porte-à-faux contre les démocrates. Moi, les républicains, c'est vraiment pas mon parti. Surtout là, depuis Trump, je trouve qu'ils sont rendus vraiment, vraiment poche puis bas de gamme. Mais sinon, l'idée de Ronald Reagan ou des deux présidents Bush, bon, les États-Unis, ils roulaient. Ça n'a pas été chic ce qu'ils ont fait en Irak. Mais au-delà de ça, tu fais comme, bon, les États-Unis, c'est un pays qui est de toutes les couleurs, divisé et tout, mais qui se tient. Tu n'étais pas obligé de tomber dans les magas et l'envahir le Capitole. Tu vois qu'il s'est passé de quoi. Ben Trump, pas Trump, mais Zemmour, il n'est pas là. Zemmour, il n'attise pas des espèces de groupuscules bizarres là, de la meute. Puis, parce qu'il est trop bright, il est trop... sa pensée est trop articulée. C'est vraiment un personnage sulfureux, mais qui est allé à l'école. En tout cas, moi, ça m'interpelle. Après ça, ben, ses analyses, des fois, vraiment, il part en vrille parce que là, il décide que... Je veux dire, il fait des exagérations de langage qui lui ont valu, d'ailleurs, des tapes sur le museau et autres. Mais c'est pas vrai que... c'est-à-dire que il est détestable uniquement quand tu as une sensibilité de gauche qui fait que ce propos-là, tu veux juste pas l'entendre. Mais malheureusement, c'est bâti souvent sur du réel. Puis le temps lui donne très souvent raison. C'est-à-dire que lui, il piaille ses mêmes affaires depuis 20 ans. Puis tout à coup, ben, tu sais, je vous donne un exemple. L'ancien ministre de l'Intérieur, qui est l'équivalent de Geneviève Guilbeault, qui s'occupe de la police et autres, il a démissionné pendant le mandat de Macron, donc il y a à peu près 2 ans de tout ça, il s'appelait Gérard Collomb. Puis lors de son speech, il avait dit, comme ça, là, lors de son speech d'adieu là, à l'Élysée, là, il avait dit « Aujourd'hui, les Français sont côte à côte, mais bientôt, ils pourraient être face à face. » Ça faisait carrément allusion aux banlieues parisiennes où la police rentre plus, puis que c'est des musulmans, bandits, qui sont face à des populations qui sont délocalisées. Et c'est le grand chef qui lui-même dit le truc, tu sais. Ça fait qu'il n'y a plus personne maintenant, d'ailleurs, qui ne décrit plus ce qui se passe dans les banlieues parisiennes, dans certaines banlieues parisiennes, parce que c'est le réel. Là, après ça, tu peux dire, oui, mais calmez-vous, c'est le réel là, mais c'est pas le réel de la vie d'être musulman en France, etc. Ça fait que c'est là que, tout à coup, tu sais, tu peux prendre un petit cas puis en faire une généralité, puis bon. Mais je me prononce pas là-dessus, c'est pas ça mon point. Mon point, c'est juste de voir... C'est pour ça que je vous dis que Gabriel Nadeau-Dubois avait, dans nos proportions à nous autres, puisqu'on n'est pas du tout dans ces combats-là, quelqu'un qui essaierait de récupérer, comme Maxime Bernier, à l'autre élection, avait payé des gros panneaux non à l'immigration massive. Man, copy-paste de quel pays, là? Je veux dire, c'est pas un enjeu zéro, je retiens rien, là. Fait que je dis pas que c'est pas une discussion valable, je te dis juste... C'est quoi, là? En France, ça pose problème, puis ça pose problème depuis un bout, puis là, tout à coup, tout le monde le voit, puis même les journaux à gauche font des enquêtes, etc. Ça fait que Zemmour, il y a un terreau fertile pour parler de ça, parce que, à quelque part, le réel joue pour lui. Mais tu vois à quel point ça enrage. Ça fait que c'est extrêmement intéressant, si, tout comme moi, vous vous intéressez à la dynamique des médias, la dynamique des discours. Ça fait que vous pouvez, je vous conseille, faites Éric Zemmour, Z-E-M-M-O-U-R, dans YouTube, puis regardez ce qui sort, puis écoutez quelques vidéos qui traitent de lui, puis vous allez voir plein d'affaires. Vous allez voir des vidéos qui sont pour, des vidéos qui sont contre. C'est phénoménal. C'est phénoménal. J'ai rarement vu, depuis Donald Trump, quelqu'un qui attise la presse comme ça, de façon autant polarisée. Puis le gars est extrêmement solide. Son débat avec Mélenchon, qui Mélenchon est extrêmement solide aussi, dans un registre complètement différent. Ça va être fascinant. Ça peut faire gagner un, puis monter un au détriment de l'autre. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais tu vois que quand quelqu'un a... Tu vois la force des médias, parce que quand quelqu'un, tout à coup, est vraiment... Comment je te dirais ça? Donc, a vraiment les médias qui collent au cul parce que c'est du jus, puis les gens en veulent, pour l'haïr ou pour l'aimer, là. Tu te rends compte de la force que ça a, parce que tout à coup, ça impose quelque chose. Plus personne. Marine Le Pen est comme effacée actuellement. Toute la place qu'elle pourrait avoir, c'est complètement Éric Zemmour. Si Éric Zemmour disait « Je me présente pour le Rassemblement national », Marine Le Pen a décidé de se tasser, puis c'est moi qui s'en va. Moi, d'après moi, il gagne instantanément. Si Marine Le Pen disait « Sais-tu quoi, je te fais une proposition », puis si tu dis un jour que je t'ai dit ça, je vais nier jusqu'à temps que je meurs, mais je te propose de prendre ma place. Donc, au lieu de diviser le vote, c'est Zemmour qui devient le nouveau chef de l'ancien Front national appelé Rassemblement national. À la lumière de ce que je vois, d'après moi, là, il rentre premier tour, deuxième tour. Ça serait lui contre Macron. Ça ferait un débat des chefs haut en couleur. Ça réallumerait l'intérêt pour la politique. Il y a quasiment des vertus à cette espèce d'intensité-là, too much. C'est comme si ça rallume les gens sur des thèmes que sinon... Hey, tu sais, moi, vous connaissez ma théorie. Je vous dis que depuis 1867, depuis la Confédération, tu prends la première position de toutes les élections aux 4 ans. Donc, celui qui a gagné les élections, tu le remplaces par celui qui est arrivé deuxième. Puis aujourd'hui, on a le même Canada. Bien, non seulement j'y crois encore, j'y crois plus que jamais, parce qu'avec la dernière élection qu'on vient d'avoir, c'est pas juste le gagnant ou le perdant que tu peux intervertir. C'est l'idée même d'une élection qui change rien. C'est qu'on n'est pas du tout un pays comme les autres. Ça n'a rien à voir. Fait que ces enjeux-là, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, on n'est pas dans cette dynamique-là. En tout cas, fait que regardez, j'essaie de vous faire un petit survol de ça, parce que moi, c'est quelque chose qui m'interpelle à mort puis que ça m'intéresse intellectuellement au fond. Pourquoi? J'ai essayé de vous le résumer. Je ne sais pas si c'est clair ou... Mais je pense que c'est clair, ça ne fait pas le tour de tout. Si vous voulez poursuivre un petit peu ça, ben vous m'en donnerez des nouvelles. Mais c'est ça, je ne vous avais jamais parlé de ça, mais moi, c'est un intérêt... c'est ça. Ça fait que voilà, bye!